Pauline Pucciano, Paradict. 7 janvier 2072. Dévoilement de Léviathan au grand public, pour Elze Costa, c'est l'espoir qui se lève. Les premières mesures du gouvernement Costa expliquées en 10 points. Pourquoi la recherche est-elle une activité dépassée? Le patron fumait une pipe. Une vraie antiquité qui vous piquait la langue et vous emplissait la pièce d'une fumée âcre aux fortes senteurs végétales. Les volutes bleutées tournoyaient un moment à hauteur de ses yeux, avant de rejoindre la nappe de fumée froide qui flottait dans l'air au-dessus de sa tête. Il faisait trop chaud pour ouvrir sa tente, il préférait ce brouillard épais qui dessinait d'étranges et mouvantes figures. Il ne savait pas quoi penser de ce que venait de lui dire Bassel Kazra. Il ne savait surtout pas quoi faire de cette information. Il pouvait la laisser se perdre dans le flot ininterrompu de tout ce qu'il apprenait, savait et oubliait au long des jours, ou bien il pouvait en faire une monnaie d'échange, ou un don, ou une arme. Les informations étaient comme les volutes de fumée, il fallait leur donner une forme par l'imagination. L'idée d'appeler le petit inspecteur de la globale l'avait bien effleuré. Cette information serait pour lui d'une grande importance, et peut-être aussi pour son enquête, et même pour les parents de Marek. Mais cela le gênait de faire cette offrande à un sédentaire. Les enquêtes de l'administration ne le concernaient guère, la mort de Marek n'était pas réversible, et l'inspecteur finirait bien par restituer le corps et classer l'affaire. Quant à Bassel Kazra, c'était un loup qui continuerait à tuer, mais il tuerait hors de la caravane, et c'était tout ce qui lui importait. Ses ratiocinations l'avaient presque conduit à prendre une décision, celle d'enterrer l'information dans sa conscience plutôt que de la livrer au sédentaire, lorsque l'inspecteur se présenta. Alvar Costa, en personne, avec ses yeux qui semblaient un feu très lointain, et sa voix qui se cherchait toujours un chemin vers la vérité. « Alvar Costa !» articula le patron en soufflant sa fumée dans la figure de l'inspecteur. « Quel bon vent vous amène !» Alvar tout sauta, ostensiblement, et chassa la fumée de ses doigts. « Du vent, il n'y en a pas beaucoup, on dirait. C'est même le calme plat. Je venais aux nouvelles. » Le patron leva un sourcil amusé. « C'est dans votre protocole, ça, de venir aux nouvelles ?»« Mon protocole n'a rien donné, alors j'innove. » »« Comme c'est étrange, je croyais que vous aviez les meilleurs experts à la globale. » »« Mais oui, je sais tout un tas de choses inutiles, comme le poids de l'arme qui a frappé Marek et l'angle du cou. Je devine comment les choses se sont passées, mais il n'y a rien pour faire le tri entre les dizaines de suspects auxquels ma piste aboutit. » C'est ce qu'on appelle une impasse dans notre jargon. Les sédentaires ne savent pas utiliser leurs mots. Un carrefour ouvert à toutes les voies, ça n'est pas une impasse. Une impasse, c'est quand on est obligé de rebrousser chemin. Vous, vous vous plaignez d'avoir trop de chemins ouverts pour continuer votre voyage. Vous trouvez qu'une enquête est comme un voyage. Évidemment, toutes les recherches sont des voyages, et le propre du voyage, c'est qu'on ne sait pas où on va et qu'on ne sait pas si on reviendra. J'aimerais bien que mes enquêtes soient des voyages, mais pour dire la vérité, je fais le plus souvent du surplace, et je me demandais si Bassel n'aurait pas un élément qu'il aurait oublié sur l'identité du commanditaire, quelque chose de plus tangible, quelque chose qui me rapproche de ma destination. Le patron se tut et fixa sur Alvar ses yeux intenses. « Que lisez-vous en moi ?» demanda le jeune homme. « Vous avez changé depuis la dernière fois où je vous ai vu. » Alvar pensa à Sonia et esquissa un sourire. « Peut-être. » « Vous venez aux nouvelles parce que vous êtes en train d'errer. Je vous l'ai dit, vous n'avez pas grand mérite. » « Vous auriez pu vous arrêter plutôt que de vous mettre à errer. Vous auriez pu classer l'affaire. Et, à votre avis, pourquoi ne l'ai-je pas fait ?»« Parce que vous avez pris goût à l'errance. » Alvar hocha la tête en signe de dénégation. Et sinon, vous seriez disposé à appeler Bassel ? Ce n'est pas la peine. Alvar parut surpris. Pourquoi ? Parce que je sais déjà ce que vous voulez savoir. Alvar parut content, et le feu de ses yeux parut un instant un peu moins lointain. Pourquoi avez-vous toujours l'air de regarder les choses de très loin, comme si vous n'appartieniez pas vraiment à ce monde ? Demanda le patron. Alvar soupira, mais se plia au tour nouveau de la conversation. Si je peux me permettre une remarque, les conversations sur la route ont autant de virages et de détours que des chemins. On ne sait jamais où elles mènent. Et cela vous déplaît ? Alvar réfléchit honnêtement. Non, je trouve cela agréable, même si parfois je me sens un peu perdu. Celui qui se sent perdu se rapproche de la vérité, récita le patron, comme s'il s'agissait d'une citation bien connue ou d'un proverbe. Vous avez vous-même créé une nouvelle digression. Je vous demandais pourquoi vous aviez toujours l'air de regarder les choses de très loin. Probablement parce que je suis un étranger. Le patron apprécia la réponse un instant puis répliqua. Et chez vous, vous n'avez pas cet air-là? Chez moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis un étranger partout, et surtout chez moi. Mais pourtant, vous n'êtes ni un blême ni un homme. Vous faites partie de la grande famille de la World Administration. Alvar haussa les épaules. Il y a un seul endroit où je ne me sens pas étranger.
Où?
Anywhere out of the world, dit Alvar en souriant. Le patron eut un sourire fugace et Alvar songea que c'était la première fois qu'il le voyait sourire, si l'on acceptait ses rictus moqueurs. Votre commanditaire est venu hier soir voir Bassel pour une nouvelle opération. Les questions fusaient dans la tête d'Alvar. Vous avez un nom? Non. Mais Bassel a réussi à le prendre en photo. Le patron se déplaça jusqu'à son bureau et lui envoya immédiatement l'image. Alvar vit un visage vaguement familier, mais sur lequel il n'arrivait pas à mettre un nom. Et pour quelle opération est-il venu? Oh, ça, ce sont les affaires de Bassel. Je ne vois pas la nécessité de mettre votre nez là-dedans. Alvar bouillonnait, mais se retint d'insister. Une affaire qui n'a rien à voir avec Marek. Rien du tout. Et ce n'est pas un meurtre. Alvar regardait la photo avec intensité. Il avait vu cet homme, récemment. Il en aurait juré. Un client du Blue Note, peut-être? Ou un quelconque cadre de la WA? Il envoya immédiatement la photo à Abel, qui avait toujours eu une excellente mémoire des visages. « Merci, patron, » dit Alvar. Le patron tira une grande bouffée de sa pipe et prit le temps de recracher un épais panache de fumée. « Vous savez comment vous appelle la liseuse de signes ?»« Non. » »« Vous lui demanderez, à l'occasion. » Cette phrase en suspens parut à Alvar une bonne réplique finale. Il fit comme s'il s'agissait d'un au revoir et sortit, laissant derrière lui le patron et sa nappe de fumée froide où les formes se fondaient. À l'extérieur de la tente, la caravane s'éveillait lentement. À part le patron, les noms ne semblaient pas très matinaux. On entendait des voix humaines, des conversations engagées, des duos qui devenaient des trios, des quatuors, les objets qui avaient été laissés là pour la nuit, et qui tout à l'heure paraissait n'être qu'un désordre, reprenait du service, faisait teinter leurs lames, sautait de main en main. Il faisait déjà chaud, des crapauds attardés devant l'agitation du matin quittaient les flaques d'eau et rentraient dans leurs trous. Alvar ne put s'empêcher de comparer cette caravane aux rues mortes de la City, à leurs passants silencieux et solitaires. Plus que toute autre chose, c'était la parole qui semblait sourdre ici plus naturellement et couler comme une eau fraîche de proche en proche. C'était un lieu humain, irrigué de paroles et de sens, et Alvar, en revenant dans le désert urbain, fut frappé par la sécheresse de cet espace de silence. Il était presque 18 heures lorsqu'Alvar parvint à se faire admettre au bureau palatin. Après qu'Abel eut identifié Curtis Anglione, après qu'Alvar eut lui-même enquêté suffisamment sur l'emploi du temps de ce dernier aux dates qui l'intéressaient, et rédigé une ébauche de rapport concernant le meurtre de Marek Escanza, il avait couru au bureau de son chef, qui avait survolé les conclusions avant de s'écrier. « Curtis Anglione, vous pétez vraiment plus haut que votre cul chez les Costa !» Alvar laissa passer l'averse. « Je n'y peux rien, ce n'est pas moi qui ai décidé de la conclusion de l'enquête. »« Et c'est qui alors? Le pape ?»« La vérité n'a besoin de personne, elle est là, c'est tout, je n'y peux rien. »« Vous imaginez 5 secondes le déluge qui va me tomber dessus si je transmets ce rapport ?»« Non. » Quand un membre de la WA est incriminé, c'est une contre-enquête diligentée par un autre service, des mois de procédure, un audit général, et pour finir le plus souvent, une mutation sanction. Mais on n'a pas le choix, chef. Ce Marek Escanza a été tué de la plus ignoble manière et... Vous n'avez qu'à retrouver le tueur à gages et lui faire porter le chapeau. Je refuse de laisser le commanditaire s'en sortir comme ça. Ah oui, vous refusez? Oui. Eh bien, moi, je refuse de transmettre le rapport. Alors, je vous conseille d'aller le porter directement à votre sœur et de voir un peu la tête qu'elle va faire quand vous allez lui dire qu'un de ses proches collaborateurs s'amuse à faire tuer des délicats pour voler leur avatar. Leur ange, corrigea machinalement Alvar. Je m'en fous, Costa, je m'en fous que ça s'appelle un ange ou un avatar dans ce foutu jeu. Je vous dis d'aller voir votre sœur. Alvar avait eu envie de lui rétorquer que le paradicte n'était pas un jeu. Mais il n'avait pas insisté, et, fort de son rapport de 4 pages et de sa certitude d'avoir fait du bon travail, il entreprit de rendre visite à Elsé. « Tu crois qu'elle va te recevoir comme ça ?» lui avait demandé Samir, sceptique. « C'est ma sœur, je te le rappelle, » lui avait dit Alvar, étonné. « C'était ta sœur, » avait précisé Samir. « Maintenant, c'est la secrétaire générale. » Alvar avait haussé les épaules. Mais cette petite phrase assassine avait tintinabulé à son esprit à plusieurs reprises au cours de la journée, lorsqu'il avait dû franchir les obstacles immatériels qui obstruaient les portes du pouvoir. Il fallait un accord, un rendez-vous, un feu vert, et chaque porte ouverte semblait mener à une autre plus lourde, plus secrète et plus fermée. Il pensait à cette étrange parabole de Kafka sur les portes de la loi, dans laquelle un homme passe toute sa vie à attendre une autorisation d'entrée qui ne viendra jamais. Il pensait aussi au palais de Racine, aux chambres impériales et aux antichambres tragiques, où la fatalité se nouait par des paroles courtoises entre 2 courants d'air. Sa sœur lui semblait avoir pris l'épaisseur et le poids d'un personnage. « Et ton nom paraîtra dans la race future, au plus cruel tyran, une cruelle injure. » Lors de sa dernière attente, dans l'antichambre directe du bureau palatin, où il attendait avec quelques hommes en noir, il prépara mentalement le récapitulatif qu'il voulait faire à Elsé. Curtis Anglion, formellement reconnu par un témoin oculaire, avait prémédité et commandité l'assassinat d'un homme, délicat de son état, un dénommé Marek Escanza, architecte de génie pour le paradicte. Le mobile du crime était de lui voler son ordinateur et par là même de s'approprier son ange, de récolter la gloire et la reconnaissance dont Marek jouissait. Il s'était acquis l'aide plus ou moins active d'un autre ange, de l'entourage de Marek. La dénommée Mantra, en rivalité avec Marek, avait probablement accepté de se prêter à une triangulation qui avait permis de localiser la caravane de Marek. On ne savait pas à ce jour ce qu'elle y avait gagné. Peut-être avait-elle prévu, grâce à ses propres talents d'architecte, d'aider Anglion à maintenir l'illusion, moyennant une position privilégiée. Puis, Anglion avait fait le guet au sortir de la caravane, et il avait fini par trouver l'homme qu'il lui fallait. Un homme sans scrupules, qui avait accepté le contrat, et matraqué son voisin de roulotte. L'ordinateur avait été volé et remplacé par un autre. Évidemment, Elsé voudrait probablement faire arrêter également le tueur à gages, et Alvar ne voyait pas comment Bassel Kazra pouvait échapper à la prison. Cela le tracassait un peu, parce que le patron considérerait probablement cela comme une trahison. C'était Bassel qui avait identifié Anglion, et Alvar se sentait moralement tenu par une sorte d'accord tacite entre 3. Bassel avait coopéré, le patron lui avait sectionné les doigts, cela ne regardait plus la globale. Mais Alvar ne réussirait jamais à faire boucler Anglion sans son témoignage. Il en était là de ses réflexions lorsqu'enfin Elsé le reçut. Elle fit son entrée, belle et froide, comme une agrippine de théâtre. Elle ne le convia pas dans le bureau palatin, mais congédia ses chiens de garde et le reçut, debout, dans cette antichambre impersonnelle. « Excuse-moi, Alvar, j'ai très peu de temps à te consacrer. Tu as une affaire à m'exposer, je crois, une de tes enquêtes ?»« Tes collaborateurs t'ont bien renseigné, j'ai là tout mon rapport. » Il tendit le dossier qu'elle ait saisi. Elle l'ouvrit distraitement et lut la dernière page en diagonale. « Pourquoi y a-t-il le nom de Curtis Anglion ?» s'étonna-t-elle. « C'est la raison pour laquelle mon chef m'a demandé de te transmettre le rapport directement. Il est impliqué dans un meurtre. » Les yeux d'Elsé s'étrécirent. « Impliqué de quelle façon ?» Il a prémédité et commandité l'assassinat d'un homme, délicat de son état, un dénommé Marek Escanza, architecte. « Tu as des preuves ?» coupa-t-elle. « Oui, un témoin oculaire. Avec une perquisition, je pense pouvoir saisir son ordinateur, qui sera une preuve matérielle. » Elsé resta un moment silencieuse. Ses traits n'étaient plus mobiles, comme auparavant, et leur perfection plastique faisait ressembler son visage à un masque impénétrable. « Tu as eu 1000 fois raison de venir me trouver, Alvar. » « Tu peux passer un coup de fil pour que j'obtienne le mandat de perquisition ? Si on se dépêche, je peux peut-être le mettre en examen dès ce soir ?» Elle tressaillit. « Non, Alvar, surtout ne nous précipitons pas. J'ai besoin de temps pour appréhender le problème, et tu dois me promettre de ne rien dire à personne. » Alvar soutint le regard de sa sœur. « Je ne comprends pas, Elsé. Pourquoi as-tu besoin d'appréhender le problème ? Il y a un assassin identifié, il n'y a pas de question à se poser. » »« C'est plus compliqué que ça, Alvar. » »« Et pourquoi ?» « Parce qu'il est très haut placé, et ce scandale rejaillirait sur moi, sur mon administration. Il y aurait des conséquences politiques, peut-être des conséquences graves. »« Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu proposes ?»« Pour le moment, Alvar, je ne te propose rien. J'ai pris acte de ton enquête, je te demande de passer à autre chose et de me laisser gérer cette affaire. »« C'est tout l'effet que ça te fait d'avoir un assassin parmi tes collaborateurs. On dirait que tu n'es même pas surprise. » »« Elle ne l'était pas, en effet, et n'avait pas pris la peine de feindre. » « Tu es tombée sur la mauvaise enquête, » dit-elle froidement. « Il faut que tu oublies tout ça, et surtout, surtout, que tu n'en parles à personne. Mon collègue et mon chef sont déjà au courant. Je ferai le nécessaire pour qu'ils ne parlent pas. Tu es en train de me dire que j'ai fait cette enquête pour rien, qu'on ne rendra pas justice à la victime, que tu vas garder cet assassin dans ton staff, et que je peux aller me faire pendre ailleurs ?» Elsé eut un air exaspéré qu'Alvar connaissait bien, le même que lorsqu'ils étaient plus jeunes et qu'Alvar s'obstinait à s'opposer à son père contre son propre intérêt. « Tu ne changeras jamais, Alvar, tu es toujours en croisade contre le système. »« Je te demande pardon, je suis venue parce que j'avais bouclé mon enquête et que j'avais confiance dans le système, justement, confiance en la justice. » « Excuse-moi, je comprends, » dit-elle d'un ton plus doux. « Je te promets d'y réfléchir. Je veux juste qu'on laisse passer le mariage, sans l'ombre d'un scandale. Et puis, nous en reparlerons. Il sera à la table d'honneur. Qui ? Curtis ? Oui, ça m'amuserait de savoir si tu vas me forcer à trinquer avec l'assassin. Non, je te promets que ça n'arrivera pas, mais je t'en prie, pas d'esclandre. » Il la revoyait, adolescente. Elle avait toujours su lui arracher des promesses du bout des lèvres qu'il se sentait obligé de tenir. « Promets-moi que tu ne feras pas d'esclandre et que tu ne parleras pas de tout ça jusqu'après le mariage. Fais-moi confiance. Je m'en occuperai après. Fais-moi confiance. » Alvar soupira, vaincu. « Tu as appelé papa récemment ?» lui lança-t-il. « Non. Son état se dégrade. N'attends pas trop longtemps pour l'appeler. » « Mais... « Pourquoi tu n'as pas insisté davantage ?» demanda Sonia. « Parce que je connais Elsé, et aussi parce que je connais le système. Le chef avait entièrement raison. Les loups ne se mangent pas entre eux. Elle va simplement garder le rapport et ne rien en faire. Elle va le lire, elle va l'utiliser comme moyen de pression sur Anglion. Il lui sera probablement très utile. Mais il ne paiera pas pour ce qu'il a fait. Non. Elle ne t'a pas dit cela clairement, peut-être qu'elle s'en occupera effectivement après. » « Je n'y crois pas un instant. Et pourquoi as-tu accepté de te taire si tu n'es pas dupe ?»« Parce que tout ça me fatigue. Parce que tout ce qui n'est pas toi ne m'intéresse plus. » Sonia sourit. Il partageait ce sentiment étrange, presque impossible à expliquer. Le sentiment que plus rien n'avait d'importance, hormis eux. Qu'ils n'avaient en fait plus aucune relation directe avec le monde. Leurs liens antérieurs, leurs centres d'intérêt, leurs idéaux eux-mêmes s'étaient éteints. À demi effacé, et ne restait plus qu'à l'état de vestige dans leur esprit bouleversé. Le temps qu'ils passaient loin de l'autre était un temps d'attente, un temps vain, qui tournait à vide comme une vis dans un pas cassé. Elsé, sa politique, le Blue Note, le Paradict, leur famille, leurs souvenirs, leurs mémoires, tout avait perdu forme et consistance. Il n'y avait de réel que leur peau, leur souffle, les flambées de leurs désirs, le vertige de leurs conversations, de leurs messages, la puissance enveloppante de leurs paroles amoureuses. Tout le reste avait sombré dans un demi-oubli. Les journées n'étaient que des interruptions nécessaires dans la longue nuit sans fenêtre où leur amour grandissait. Les événements qui s'y produisaient leur demeuraient obscurément extérieurs. Sonia chantait encore, comme dans un rêve, et Alvar parvenait au prix de gros efforts à se concentrer pour reprendre le fil de son enquête. Mais un ressort s'était brisé, et l'attitude d'Elsé, qui l'aurait scandalisé quelques jours auparavant, le laissait froid, tout comme le laissait froid la maladie galopante de Francis et les discussions politiques animées qu'il entendait à droite et à gauche. Le paradict lui-même avait perdu de sa couleur et de sa beauté. Alvar ne savait pas s'il était un fantôme dans le monde, ou bien si la City elle-même n'était pas devenue une cité fantôme depuis qu'il était avec Sonia. Mais il avait en permanence la conscience aiguë qu'il y avait plusieurs plans d'existence et que le monde et lui n'étaient plus sur le même. « J'aimerais bien que tu m'emmènes sur la route, » lui glissa Sonia à l'oreille avant de s'endormir. Le lendemain, quand il s'éveilla, tout lui parut infiniment clair. C'était une sensation de libération intime, comme si un grand fatras d'idées et de sentiments venait soudain d'être remis en ordre, le laissant apaisé, calme et heureux. La politique effrayante d'Elsée et sa collusion avec un assassin, son amour pour Sonia, sa sympathie pour Marek Escanza et son besoin de lui rendre justice, son attirance pour les noms, son deuil de la figure du père, tout s'emboîtait comme par magie dans la décision qu'il venait de prendre sans le savoir pendant la nuit et qui lui apparaissait maintenant avec une lumineuse évidence. Sonia dormait, ses cheveux roux caressant voluptueusement la nudité de son corps blanc tacheté de brun. Alvar la contempla un long moment, impatient de partager avec elle ce miracle psychique, cet événement intérieur et fabuleux qui allait modifier le cours de leur vie et qui n'était encore, à cette heure intime et silencieuse, qu'une promesse vague, pure et lointaine, comme une étoile.